Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à une période de questions, parce qu'à chaque fois, dans les précédentes appréciations des journées, les avis étaient unanimes pour dire qu'il n'y avait pas assez d'espace pour échanger avec les intervenants. Donc là, on a essayé de prévoir d'être large. Donc voilà, on a des micros qui peuvent circuler dans la salle. Donc maintenant, la parole est à vous.
Oui, bonjour, Gilles Moulec, vice-président de l'ADESME. Vous avez dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne la cartographie des CMP, il n'y avait pas vraiment de données disponibles. Vous avez fait référence au temps nécessaire pour rejoindre une unité d'hospitalisation, mais si on est justement dans la dimension prévention, agir en amont, etc., pour justement éviter l'hospitalisation, est-ce que le sujet de la cartographie des CMP n'est pas une priorité dans ce domaine?
Mais là aussi, c'est un peu l'inégalité de la qualité de l'information selon les régions qui fait que dans un atlas qui se veut national, donc si on représente actuellement les temps d'accès aux CMP, on va se voir que c'est la qualité, parce qu'en gros, on connaît le nombre de CMP grâce à la SAE, mais sinon la localisation des CMP, c'est le répertoire finesse, et les structures ambulatoires n'ayant pas obligatoirement, enfin le côté autorisation d'activité, sont très mal recensés dans le répertoire finesse. Donc il y a je sais qu'il y a des régions comme la Bretagne dans lesquelles la qualité, il y a une vraie volonté de l'ARS de recenser les CMP. Je sais qu'en PACA on peut aussi le faire, mais au niveau national on n'est pas capable de le faire. C'est pour ça que c'est là où, selon les régions, il y a des données qui sont disponibles et de meilleure qualité et qu'on peut mobiliser, mais nous on pouvait pas le faire dans le cadre d'un atlas national. Après, à terme, c'est voir, vu que c'est un outil qui est à disposition des ARS pour l'alimenter, donc chaque ARS peut mettre des données qu'elle a sur sa région. Et je pense que pour PACA, ce sera fait à voir sur d'autres régions. Mais c'est la limite. Donc j'avoue qu'on est toujours partagé entre se dire on les représente, ça améliorera la qualité de l'information et ça poussera les gens à déclarer le CMP dans le répertoire finesse. Mais là, enfin, on a essayé de le représenter, c'est vraiment pas. Enfin, ce serait une fausse information de le représenter cartographiquement.
Oui, ici, oui. Vincent Thomas, EPSM de la Sarthe. Deux questions. Vous avez évoqué les cliniques privées, la difficulté pour certaines d'entre elles de repérer leur zonage, leur zone d'intervention. Comment avez-vous traité? Allez, je voudrais peu plus de détails là-dessus, peut-être.
Non, c'est... Oui. Je réponds déjà à ça. Non, c'est plus que dans le secteur public, il y a des zones d'intervention, enfin, du fait de la sectorisation qui fait que, bon, même si la population est libre d'aller consulter, normalement, dans un autre établissement, il y a quand même la sectorisation qui fait que selon où on habite, souvent on va nous demander notre adresse et être adressé vers l'établissement auprès duquel on dépend. Alors que la population peut aller librement vers n'importe quel établissement privé ou, on va dire, établissement non hospitalier. Donc c'est plus que voilà. Et puis on sait que certaines cliniques sont spécialisées dans certaines prises en charge et ont des zones d'attraction beaucoup plus importantes. Voilà. Mais après, ça, c'est des données qui sont disponibles, j'ai envie de dire, dans d'autres outils comme Scan Santé, où on peut voir les zones d'attractivité des établissements.
Mais vous avez cherché à rattacher une offre à un territoire?
Ouais. Du coup, on le rapporte au département à minima, sachant que ça, en effet, c'est pas complètement correct, surtout selon la localisation des établissements, on peut recourir.
C'est vrai également pour les unités à caractère interrégional, comme les UMD, par exemple.
Alors justement, elles, on les rapporte pas à une population, on les localise juste. Il y a tout ce qui est justement sur le champ pénitentiaire, par exemple, on va pas les rapporter à une population, parce qu'en plus les régions sont pas obligatoirement les régions du champ de la santé. Donc ça, c'est des données qu'on va simplement localiser et qu'on ne va pas rapporter à une population donnée. Voilà, ça fait partie des limites.
Et j'ai une deuxième question. Là, on est en infraterritorial. Vous parlez des CMP à l'instant, mais on innove pas mal dans le champ de la psychiatrie depuis quelques années. Les nouvelles modalités d'intervention territoriale, comme par exemple les équipes mobiles d'intervention à domicile, que l'ANA n'a pas bien décrites et qui sont mises en œuvre maintenant assez largement. Vous prenez ça en compte comment?
Alors ça, on a soit les équipes mobiles psychiatrie précarité, ça, elles sont recensées, et après on a les densités d'actes à domicile, qui sont une façon indirecte de voir comment un établissement va vers sa population. Voilà, on a exploité après les données du RIMPE pour avoir ce côté densité d'actes à domicile, densité d'actes hors CMP, CATTP, lieu de soins de l'établissement, pour approcher ces dimensions-là, sachant qu'on n'a pas, pareil, de répertoire des équipes d'intervention précoce, enfin des équipes mobiles autres que précarité, on va dire.
Qui ne sont pas que d'intervention précoce.
Oui, enfin toutes les équipes mobiles. Nous, on l'identifie par le fait qu'il y ait des soins à domicile, dans un lieu domicile ou substitut du domicile.
Un des défis à venir sera de décrire, justement pour, dans un esprit de benchmarking, pas d'autres mots, mais les innovations qui se pratiquent, de manière à pouvoir les repérer sur le territoire national et chercher à les dupliquer, les reproduire. Une représentation cartographique pourrait être utile.
Oui, mais ça fait partie. Voilà, on a essayé de le faire, par exemple, avec... je sais pas, on représente les programmes pro-famille. Enfin, je sais pas, c'est une innovation, mais il y a des choses comme ça. Mais après, c'est souvent pas si facile d'avoir ce recensement national des innovations. Donc, on essaye. Et puis, enfin, l'avantage de l'outil numérique, c'est que lui, il peut être amélioré. Enfin, on peut intégrer de nouvelles informations. On a intégré les unités d'hospitalisation mère-bébé, des choses qui se récupèrent finalement parce qu'il y a soit une association nationale qui permet de nous donner des informations sur ces choses-là. Mais c'est vrai que les différentes innovations développées par chaque établissement, pour le moment, le recueil d'informations, que ce soit la SAE ou d'autres dispositifs, nous permettent mal de les recenser. Donc, c'est fait partie du côté partagé du diagnostic où c'est les acteurs, au-delà de la partie quantitative, qui doivent compléter ce diagnostic et faire un bilan justement partagé. Mais je pense que ce sera davantage développé par la présentation suivante.
François Courtois, Centre Hospitalier de Roufac. Une question pratique. On va être amené à élaborer assez rapidement un diagnostic territorial en santé mentale. Ce n'est pas quelque chose de facile et on peut aller d'un extrême de simplicité à un extrême de complexité. L'extrême de simplicité, c'est de compter le nombre de CMP et puis la file active. L'extrême de complexité, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire d'ailleurs, c'est une étude générale sur la santé mentale en population générale. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas aller regarder ce soir parce qu'il y aurait plein d'erreurs, mais qu'on pouvait y aller fin octobre. Alors, est-ce que fin octobre, on peut utiliser l'Atlas santé en santé mentale pour construire un diagnostic territorial en santé mentale et qu'on a pas mal de chances de ne pas se tromper ?
Ce ne sera jamais suffisant. Pour moi, c'est une réponse partielle. Enfin, c'est un des éléments du diagnostic. Mais il y en a d'autres. Enfin, voilà, pour travailler avec une ARS beaucoup, c'est vrai que souvent, ensuite, on a besoin de décliner ces indicateurs, pas par acteur du territoire, mais on a besoin d'aller encore plus finement dans le diagnostic. C'est pour ça que c'est un élément parmi ceux que vous pouvez mobiliser pour faire vos diagnostics territoriaux partagés en santé mentale. Il n'y a pas tout dedans et il y a d'autres sources d'informations qui existent. Et en plus, il y a des sources d'informations qui existent dans certains territoires qu'on n'a pas, comme je disais, qu'on n'a pas au niveau national. Donc non, faut pas juste télécharger le rapport de territoire qui sera bientôt disponible en disant j'ai mon diagnostic. Non, c'est des éléments qui vont contribuer, mais avec d'autres éléments et surtout avec les échanges et la concertation des différents acteurs qui seront mobilisés pour élaborer le projet territorial de santé mentale et le diagnostic. C'est vraiment, comme on l'a vu au début, dans les éléments attendus du diagnostic, c'est des notions qui ne sont pas facilement mesurables, objectifables par des données quantitatives. Donc, c'est une toute petite partie du diagnostic que vous avez à faire. En fait.
Jean-Yves Landel, EPSM de Caen. Je souhaiterais savoir si vous avez interrogé la qualité des informations qui vous sont transmises. Je pense notamment à l'exhaustivité, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui ne remontent pas, y compris dans le RIMPE. Secondairement, deuxième observation, j'ai aperçu sur la carte nationale un territoire que je connais assez bien, notamment la question de la distance à l'hospitalisation complète. Je ne sais pas si c'est un bon indicateur aujourd'hui, dans la mesure où, sur le territoire que je connais, il y a un secteur où l'hospitalisation est assez éloignée, mais il y a une réelle présence de proximité de la psychiatrie de secteur, alors qu'il y a un territoire qui est en clair et qui est censé être bien couvert, où il y a effectivement une unité d'hospitalisation, mais où il n'y a plus de psychiatres.
Voilà. L'idée, c'est...
Donc la question, c'est la pertinence des informations, et je pense que c'est l'exhaustivité, la qualité, la pertinence des informations. Je pense que là, il y a sans doute, ce qui serait peut-être souhaitable, c'est qu'on puisse vous faire remonter éventuellement des informations à ce sujet, pour éviter de dire parfois des bêtises.
Alors sur la pertinence, je dirais que l'idée c'est de croiser les différents indicateurs, c'est pas de les regarder les uns à côté des autres, c'est de les croiser tous en même temps, et comme je disais, c'est toute la partie de discussion qu'il y a autour de l'analyse de ces indicateurs. Pour travailler beaucoup sur les disparités, on sait qu'il y a certaines disparités qui vont s'expliquer par la qualité des données recueillies. Mais voilà, nous, c'est fournir des éléments, parce que sinon, on ne produit aucune donnée, aucun indicateur si on dit que la qualité n'est pas suffisante. Donc l'idée, et puis, après, nous faire remonter les informations sur la qualité, je veux dire, si le RIMP n'est pas exhaustif, si la SAE n'est pas bien remplie, nous, on exploite les données que les établissements remplissent. Donc c'est pas, ce sera mieux remplir la SAE l'année suivante, être plus exhaustif dans son recueil du RIMP, mais ce n'est pas nous, au sein de l'Atlas, où on va corriger au cas par cas, en disant « Ah, ben cette année, on n'avait pas déclaré nos actes ambulatoires aux urgences, donc on va le corriger sur tel département. » Enfin, ça, ce serait une somme de travail impossible à réaliser. L'idée, c'est... Enfin, moi, j'avoue que j'ai toujours été partante dans les études qu'on a pu produire, de dire que la qualité de l'information, elle s'améliore parce qu'on l'utilise. Donc là, l'idée, c'est de mettre à disposition une somme d'indicateurs. Et oui, dans certains territoires, on va nous dire, mais en effet, ça s'explique parce que on avait mal codé les actes à domicile cette année-là, on avait un problème de logiciel, donc ça ne représente pas la réalité. Mais ça fait partie du diagnostic sur la qualité des données qu'on met à votre disposition. Et après, ce diagnostic territorial, c'est une synthèse entre des données qui sont mobilisables, votre expertise et votre connaissance du territoire. Voilà, donc on ne peut pas vouloir faire dire aux données plus que ce qu'elles sont et avec toutes les limites qu'elles ont. Les données, ça permet d'objectiver des choses et après, vous êtes autour de la table pour pouvoir expliquer, en effet, il y a un problème sur cette donnée-là et c'est...
Non. Voilà. Je vous rejoins en ce sens qu'un système d'information qui ne boucle pas, qui ne communique pas, et effectivement, c'est un système d'information qui a peu d'intérêt et souvent dont la qualité est faible. En revanche, je pense que dans une vision dynamique, je m'inscris un peu dans votre logique, je pense quand même que la comparaison des données peut faire ressortir des anomalies. Et je pense qu'il serait intéressant que vous puissiez, peut-être par une analyse comparative entre certains territoires ou des territoires qui sont semblables, faire ressortir un certain nombre d'anomalies, de sorte de pouvoir s'inscrire et améliorer encore la dynamique sur la qualité de l'information.
Enfin, après, j'ai envie de dire, nous, on pourra faire des contrôles quand on aura plusieurs années, d'une année sur l'autre, on verra des différences. Après, à quoi peut-on comparer les... Enfin, il y a tellement de variabilité des prises en charge, des équipements sur un territoire, que c'est difficile au niveau national de contrôler toute la qualité. Enfin, il y a des contrôles qui sont faits dans le cadre du RIMP, il y a des contrôles qui sont faits dans le cadre de la SAE. Les données de l'assurance maladie, elles sont peut-être plus fiables parce que c'est des données de remboursement, mais elles sont partielles aussi sur certains champs, on va dire. Donc c'est voilà. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette volonté de dire c'est les données que les différents acteurs produisent. Elles peuvent avoir des défauts, mais voilà, faut qu'elles s'améliorent avec le temps. Et faut, comme je dis, ce n'est qu'une toute petite partie du diagnostic et qui doit être corrigée. Justement, il doit être partagé aussi sur sa fiabilité. Enfin, je veux dire sur la qualité du diagnostic qui ressort des données. Ça doit être le bilan. Il doit être complété et validé par les acteurs. Voilà, c'est un élément parmi d'autres pour vous aider à le faire, mais je reste modeste sur le fait qu'il réponde à la plupart de vos questions de manière totalement fiable.
Oui, Christian Muller, conférence des CME de CHS. Écoutez, d'abord, je vous remercie de cette présentation et puis de la modestie dont vous faites part, parce que c'est effectivement, je pense, une démarche extrêmement ambitieuse. D'ailleurs, vous indiquez vous-même qu'on ne sait pas encore comment on va l'appeler, Atlas de psychiatrie santé mentale, parce qu'on se rend compte que, de toute façon, ce sont des données avant tout de psychiatrie. Et que peut-être... Ou alors, je suis quand même très intéressé aussi à savoir ce qu'on pourrait disposer comme indicateur de santé mentale, parce que le sujet est extrêmement vaste et concerne beaucoup plus d'acteurs que ceux qui ont été cités. Peut-être que dans la méthode... et je rejoins ce qui a été dit sur la fiabilité et sur la nécessaire interprétation aussi qualitative des choses. Je pense qu'il serait peut-être, enfin c'est une proposition intéressante, un moment dans votre travail, peut-être de vous rapprocher des producteurs de données que sont aussi les établissements. Alors bon, ici, cette journée, elle est sous l'égide de l'ADES et de la conférence, donc peut-être que, enfin si vous le souhaitez, on pourrait éventuellement, bon, mais même peut-être dès le départ, ça a peut-être été inintéressant que... L'IRDES, qui montre un intérêt aujourd'hui pour la psychiatrie à ce point, et aussi pour la santé mentale, on puisse se tourner aussi vers les acteurs qui auront, je l'espère aussi, à utiliser ces éléments qui ne sont pas qu'à destination des ARS.
Ah non, c'est tout à fait.
Voilà, bah, écoutez, raison de plus alors peut-être, oui. Pour effectivement voir de quelle manière, mais ça c'est votre affaire, de mieux intégrer sans doute les acteurs que nous sommes. D'ailleurs, il existe dans les régions, mais je pense que vous le savez, on est allé très loin, notamment ici, alors pour le coup en Haute-France, avec la Fédération de recherche, qui ne s'arrête pas au niveau départemental, qui va jusqu'à focaliser avec des données jusqu'au secteur eux-mêmes, et qui sont donc, à mon avis, pas inintéressants à connaître et même à proposer d'éventuelles divisions. Donc aussi les fédérations de recherche, mais il n'y a pas que les Hauts-de-France. Il y a d'autres endroits, il y a beaucoup de si vous voulez, d'établissements qui ont réfléchi sur ces aspects et que peut-être, encore une fois, il serait bon de citer et de travailler avec eux. Voilà.
Ouais. Après, c'est vrai, comme
et puis, excusez-moi, une dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est extraordinaire quand même les données, parce qu'on a l'impression que si on change de département, on peut gagner 10 ans d'espérance de vie. Alors, vous voyez comme les choses sont complexes, parce qu'il ne suffit pas de ça, n'est-ce pas?
Non. Voilà. Non, après, comme je disais, les limites de ce travail, c'est de vouloir proposer un outil national. Bien sûr que localement, régionalement, il y a d'autres données qui sont disponibles où on peut descendre à une échelle plus fine. Comme je l'ai dit, les secteurs, ils peuvent être découpés, redéfinis depuis la loi de 2016. Ils n'étaient pas disponibles au moment où on a fait le travail. Et il y a plein d'établissements dans lesquels la dimension de secteur n'a plus de sens. Et notamment dans le RIMP, il y a des établissements qui déclarent plus du tout de secteur, où les dispositifs intersectoriels ont pris tellement de place que du coup, on ne peut pas recalculer des données par secteur pour l'ensemble du territoire français. Et là, voilà, l'idée, c'est que l'idée, c'est qu'il y a des régions qui ont investi inégalement le champ de la psychiatrie et de la santé mentale en termes de juste connaissance des données qui existent. Et c'est de fournir un socle minimal commun à l'ensemble des régions. Après, à chacun de pouvoir aller plus loin, justement, sur son territoire et avec l'ensemble des données qui sont disponibles. En effet, que ce soit les ORS, les fédérations de recherche en santé mentale, les CREAI. Il y a plein d'organismes régionaux ou locaux qui peuvent être mobilisés. Au sein des conseils locaux de santé mentale, il y a souvent eu des diagnostics très fins qui ont été faits en infra-urbain, on va dire, à l'intérieur d'une agglomération, et qui sont... Enfin, voilà, pour moi, pour réaliser le diagnostic territorial partagé en santé mentale, c'est aller chercher toutes ces informations-là. Là, c'est pas... Voilà, c'est pas la totalité de ce dont vous aurez besoin pour faire un diagnostic le plus précis possible.
Oui.
Je voulais rebondir sur la question au départ de M. Moulec. C'était est-ce que par rapport à la cartographie des CMP et leur localisation exacte, est-ce qu'à terme, le répertoire opérationnel des ressources ne serait pas le bon outil à utiliser puisque théoriquement, enfin, je sais que le FINES, on s'arrache les cheveux. C'est très mauvaise qualité en général pour... même ne serait-ce qu'il y a des structures qu'on n'arrive pas à faire rentrer, enfin qu'on n'arrive pas à avoir des numéros FINES, donc qui sont rattachés artificiellement à un FINES juridique ou géographique qui n'a strictement aucun rapport. Par contre, pour avoir mis un peu le nez dans le répertoire opérationnel de ressources, quand c'est bien rempli, c'est quand même un outil d'une très grande précision et qui a l'avantage aussi de tenir en compte des structures aussi sociales et médico-sociales. Mais là encore, quand c'est bien rempli.
Voilà. Pour connaître celui de la région PACA, il est essentiellement alimenté par le répertoire FINES, le répertoire opérationnel des ressources, donc ça limite son... Voilà. Comme je dis, c'est pour ça qu'il faut vraiment chacun sur son territoire aller chercher toutes les informations mobilisables et disponibles qui seront de meilleure qualité et permettent de valider ces premières données... qui sont mis à disposition.
Oui, Jean Oureb, ici, à l'agglomération lilloise. Est-ce que vous... Bravo d'abord pour ce travail qui est vraiment, vraiment remarquable. Moi qui suis un grand paresseux, je vais aller regarder. Est-ce que vous avez l'intention d'intégrer des données épidémiologiques plus fines?
Vous pensez à quoi?
Des données de prévalence, des données d'incidence, des
choses
comme ça.
Non, ce qu'on disait, c'est que les données de prévalence, on en a au niveau national, régional, mais elles sont pas déclinables à une échelle géographique très fine. C'est la difficulté de ces données-là. Donc après, c'est vrai que, comme je disais, sur les indicateurs, sur les données, sur ce qu'on peut appeler les facteurs de risque qui peuvent faire qu'on s'attend à avoir plus de prévalence des problèmes de santé mentale, là, on descend à l'échelle des communes, des territoires de vie. Par contre, on n'a pas en France... Après, je sais qu'il y a des... travaux qui estiment des prévalences à partir de données d'enquête nationale, mais les données d'enquête nationale, c'est au maximum 40 000 personnes. Si vous les répercutez sur un territoire, même un département, ça fait très peu de personnes pour calculer des taux de prévalence en population générale. Donc ça, c'est la faiblesse des données épidémiologiques. Après, on sait dans la littérature que la prévalence des troubles fréquents, ça va varier autour de tel pourcentage en population générale. Donc on peut se dire, est-ce qu'ils sont plus fréquents ou moins fréquents en milieu urbain ou rural, et ça va donner des ordres de grandeur. Et justement, la partie ouvrage, on va dire, va donner ces indications-là sur la prévalence des troubles. Voilà.
D'accord, je suis encore arrivé
en retard. On ne peut pas les localiser, les décliner territorialement. C'est ça,
donc je suis encore arrivé en retard, donc les troubles sévères d'un côté et les troubles légers de l'autre. Vous en avez déjà parlé avant que j'arrive.
Ah.
D'accord, pardon.
Mais c'est des données de prévalence de prise en charge. Enfin, c'est pas des données de prévalence, du coup, c'est des données de prise en charge qu'on présente. C'est pas des données de prévalence en population, puisque ça, on ne connaît pas les populations non suivies sur un territoire.
Vincent Thomas, PSM Sarthe, à nouveau. Encore une question, mais on en aurait plein, je pense, au fur et à mesure de la réflexion. Est-ce que vous avez intégré des données sur les facteurs de risque démographiques, de la démographie des professionnels de santé, par exemple ceux issus des bilans sociaux des établissements ou d'autres, je ne sais pas, mais c'est un des éléments des diagnostics territoriaux qui me paraît important de pouvoir repérer. Or là, il existe des sources.
Oui, non, on a pris des données sur le personnel des établissements de santé, mais du coup, issus de la, c'est toujours pareil, issus de la SAE pour que ce soit exhaustif au niveau national, avec les limites de la statistique annuelle des établissements de santé. Mais on a des données, on a calculé des taux d'encadrement rapportés à la fois à la population et à la file active, de mémoire, en personnel médical et en personnel non médical. On a calculé la part de personnel exerçant en dehors des unités d'hospitalisation. Enfin voilà, il y a quelques données de ce type-là. Uniquement pour les libéraux, où on a la part de professionnels libéraux de plus de 55 ans, mais pas, voilà, on ne l'a pas pour les établissements de santé. Et puis pareil, pour les établissements de santé, on a une difficulté pour les cliniques où on raisonne en effectif, on n'a pas la notion d'équivalent temps plein. Donc voilà, c'est que les données, elles sont déjà compliquées à homogénéiser sur un territoire en fonction de l'offre existante, des sources d'informations existantes. Merci.
Bien. Donc, je vous remercie. On est alors là dans un timing plus précis, c'est difficile de faire. Par contre, on a décidé d'intervertir les deux prochaines interventions par rapport au programme, dans la mesure où l'intervention de Gaëlle Leloup est là en parfaite continuité avec celle de Magali Coldéfi. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Gaëlle Leloup, puisqu'on est chaud sur le sujet, on va rester dessus.